Alors on va commencer notre deuxième partie du résumé, messieurs, sur le Tanya. La semaine dernière, on a fait le résumé des chapitres 1 à 17. Et dans le chapitre 1 à 8, nous avons développé la conception spirituelle du juif, l'âme divine et l'âme animale. Et dans le chapitre 9 à 17, on s'est arrêté sur le combat des âmes. Le combat entre l'âme divine et l'âme animale. Et les acteurs, qui sont le Benoni, le Tzadik et le Racha. D'accord ? On a expliqué longuement que notre objectif, c'est d'essayer de devenir un béni. Ok. Là maintenant, chapitre 18 à 25, on va s'arrêter sur un mot. Il est écrit, lorsque Moshe Rabbeinu, il parle au peuple juif, il leur dit « Kikarov elecha adavar me'od, meficha uvlvavra lasoto ». Il les rassure en leur disant que la chose, la Torah, est très accessible, comme ça il dit, mais od, beficha ou vilvafra la soto, dans ta bouche et dans ton cœur pour le faire, ça veut dire qu'un juif, c'est très accessible d'être religieux. C'est ce que Moshe Rabbeinu dit. Alors, l'objectif des chapitres suivants, donc 18 à 25, la phase 1 du document qu'on a devant nous, c'est d'expliquer, a priori, comment on peut dire que la Torah et les mitzvot sont accessibles et qui sont faciles. C'est tellement difficile d'être un juif religieux. Comment on peut venir débarquer et dire que être un juif religieux, c'est quelque chose qui est accessible et c'est quelque chose qui est facile. D'accord ?
Moi, je peux vous attendre.
Attendez.
Il fait très chaud.
Bon.
On pourrait pas mettre la clim.
Vous allez avoir froid, en vrai. Bien sûr.
Alors, du coup, on en peut.
Hein ? Quoi ? Ouvrez les fenêtres, voilà. Donc, je disais.
Vous êtes en chaleur, là ?
Non, c'est pas chaleur.
Si vous avez chaud, allumez, moi je ne me dérange pas.
Oui, mais il ne faut pas les oublier, ça, là.
Ouais.
C'est ça.
Hein. Ah, parce que je vois une qui sort en manteau, en veste, etc. Je ne veux pas. Ok.
Eric, ça va.
Alors, on y va. Donc, dans les chapitres qui suivent, si Dieu veut, chapitres 18 à 19, ce qu'on va expliquer. Si vous avez chaud, moi ça ne me dérange pas d'allumer. Hein. Quelqu'un a froid ? Quelqu'un est frileux aujourd'hui ? Hein ?
Attends,
très bien, on y va. Si vous avez chaud, vous me dites. Donc je disais que dans le chapitre 18 à 25, on va essayer d'expliquer, c'est comment la Torah et les mitzvot sont accessibles. Le but de ce cours, c'est d'expliquer à quel point on a des outils en nous qui nous permettent de servir à Kadosh Baruch Hu, et que si on utilise ces outils, servir Dieu est beaucoup plus simple qu'on le pense. D'accord ? Donc on va commencer par le chapitre 18. 18 à 19, donc 18. Dans le chapitre 18, on a développé l'amour caché. Vous vous rappelez, d'ailleurs, ça tombe bien, on est la semaine de l'Ech Lecha. L'Ech Lecha, on nous parle d'Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, on nous raconte que lui, pour découvrir Hachem, ça lui a pris plus de 37 ans. C'était une longue progression, une longue recherche, parce qu'il est né dans une famille où personne croyait en rien du tout. Et lui, Avraham Avinu, Chazak, merci Joseph. Et lui, Avraham Avinu, il était là, seul contre tous, comme on l'a dit Shabbat. Et il s'est battu pendant 37 ans pour chercher. À la fin, il est arrivé à la conclusion qu'il y a Dieu. Alors Dieu lui a donné un cadeau. Quel cadeau il lui a donné? Il a dit, toi, pour me trouver, t'as dû me chercher. Pendant plus de 37 ans. Le cadeau que je vais te donner, 37 ans, le cadeau que je vais te donner, c'est que tes enfants n'auront pas besoin de me chercher. Tes enfants auront inné en eux un amour caché vers Dieu. Maintenant, d'un autre côté, on peut pas toucher au libre arbitre, c'est pour ça que le libre arbitre, on fait ce qu'on veut, d'accord? Enfin, en tout cas, on pense qu'on fait ce qu'on veut. Mais comme on dit ici, tout juif, même le plus simplé, hérita d'Abraham l'amour de Dieu qui lui permettra de donner sa vie pour l'honneur de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, chaque juif, il n'y a pas besoin d'un tzadik pour ça. Chacun de nous, on l'a expliqué souvent dans le Tanya, a hérité d'Avraham Avinu la capacité de donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Seulement, quel est le piège du Yetzerara? Qu'est-ce qu'il fait Yetzerara? Yetzerara, il te dit oui, mais bien sûr. Si maintenant on me dit convertis-toi au christianisme ou je te tue, alors bien sûr tu diras je me convertis pas. Et on t'a pas dit ça, on t'a pas dit de convertir. Qu'est-ce qu'on t'a dit? On t'a dit de faire une petite avéra. T'inquiète pas. Tu restes juif. Et c'est le piège du Yetzerara. Mais en vérité, pourquoi c'est un piège? C'est un piège parce qu'en vérité, il n'y a pas d'avéra plus grave et moins grave. Dans toute l'avéra, quand tu fais une avéra, tu te sépares d'Hachem, c'est pas bien. Donc, je dis là de Morazaken, toi tu crois que être religieux, faire la Torah, merci, faire la Torah, faire les mitzvot, toi tu crois que c'est quelque chose de difficile. En vérité, c'est beaucoup plus simple que tu ne le crois. Pourquoi? Parce que c'est inné en toi. Tu as l'amour caché vers un Kadosh Baruch Hu. Pourquoi j'appelle cet amour caché? Qui se rappelle? Pourquoi on appelle cet amour caché? Pourquoi on l'appelle caché?
Parce qu'il faut aller chercher.
Parce qu'il est là, mais on ne le sait pas. On donne souvent cet exemple, vous savez, les gens, quand ils font teshuva, quand ils commencent à faire teshuva, ils s'imaginent que ce sera une route très dure. Et après, ils viennent te voir après, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, ça, des gens qui viennent me voir après, qui me disent, écoute, tu sais, Mendy, finalement, c'est beaucoup plus facile que ce que je pensais. Alors, il y a des challenges qui arrivent auxquels on ne s'attendait pas, ça, c'est sûr. Mais d'un autre côté, tu vois que très rapidement, ils prennent le pli.
Mais
pourquoi?
J'avais fini de faire
teshuva. Et ce que je veux dire par là, c'est que finalement, quand une personne fait teshuva, hein, il ne fait que découvrir son vrai moi, celui qui a toujours été. Ça, c'est un cadeau que Dieu donne à Abraham. Vous imaginez si Dieu n'avait pas donné ce cadeau à Abraham, chacun de nous pour découvrir Dieu, on aurait dû galérer pendant au moins 37 ans. Avec ça, Abraham était persévérant. Mais jamais on aurait réussi. Combien de juifs auraient réussi? Pas grand chose. Déjà nous, sans chercher, déjà, on a du mal. Donc c'est évident qu'il faut remercier Hachem de ce cadeau que nous a donné. Donc déjà, voilà le premier élément pour nous expliquer comment la Torah et les mitzvot sont accessibles. Pourquoi ils sont accessibles? Parce que nous avons hérité ça de Abraham Avinu. Premier point. Chapitre 19 ensuite, juste en dessous. Va au retardant le chapitre 19. Alors, chapitre 19, on avait expliqué une très belle image, l'image de la bougie. Qui se rappelle l'image de la bougie? Alors, on avait expliqué que, quelque chose de très intéressant, on avait dit que, pour comprendre l'attirance de l'âme d'un juif vers un Kadosh Baruch Hu, il faut comprendre comment fonctionne une bougie. Dans une bougie, il y a trois choses. Combustible. Voilà, ici, on va lire ensemble, chapitre 19, comme ça vous pourrez réviser chez vous. L'âme d'un juif est attirée vers sa source, comme la flamme est attirée vers le haut, puisque le haut, c'est la source de la chaleur. Le corps est égal le combustible, l'âme est égale la flamme. Qu'est-ce qui retient l'âme, ici-bas? C'est le corps. De la même façon, qu'est-ce qui retient la flamme? C'est le combustible. Dès qu'il n'y a plus de combustible, il n'y a plus de flamme. De la même façon, dès qu'il n'y a plus de corps, l'âme s'en va. Donc en fait, ce qui veut te dire par là, ne crois pas encore une fois que tu dois tout réinventer. Sache qu'en fait, ta neshama est attirée naturellement vers le haut. Donc deux choses. D'abord, tu as un amour caché vers un Kadosh Baruch Hu, premièrement. Et deuxièmement, ton âme est naturellement attirée vers un Kadosh Baruch Hu. Maintenant, ce qui arrive parfois, c'est qu'on a l'impression que la flamme est éteinte. On a l'impression que moi, j'ai plus ma flamme est éteinte, j'ai plus de flamme pour un Kadosh Baruch Hu. Donc cette flamme peut avoir l'air éteinte, je lis, mais finit par se raviver. Alors il y a plusieurs exemples. Il y a trois exemples. Quand tu parles du feu, tu as trois types de feu. Tu as le feu d'une bougie, c'est un feu qui est visible. Tu as le feu d'un charbon. Le charbon, il est brûlant. Mais des fois, tu crois qu'il est éteint, il est tout noir. Mais en fait, dès que tu souffles, tu vois qu'il y a du lourd à l'intérieur. Après, tu as une troisième catégorie, c'est quoi? C'est le plus compliqué. C'est le feu caché. C'est quoi le feu caché? Par exemple, c'est le silex. Tu prends une pierre de silex. C'est l'idée qu'Adam avait eue pour faire le feu. Tu prends une pierre de silex. Tu grattes deux pierres de silex. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait du... Ça fait des étincelles. D'où elle vient cette étincelle?
Le frottement.
Le frottement, je comprends. Mais d'où elle vient l'étincelle? C'est-à-dire que le silex a un potentiel de feu. Ça ne vient pas de nulle part.
C'est la matière même.
Évidemment. C'est la matière. Pour le produire, il faut un frottement. Mais ce qui est particulier, c'est que le silex est une matière froide. Et c'est une matière froide qui peut générer du chaud. Avec un frottement. Mais qui peut générer du chaud. Quand je frotte de l'eau contre de l'eau, ça ne me donne pas du feu. Quand je frotte du bois contre du bois, ça ne me fait pas du feu. Mais le silex, il a une chose de particularité. C'est que quand tu frottes.
Si.
Hein?
Si.
Si quoi?
Quand tu frottes du bois contre. Ouais, ça donne du feu.
Ça dépend à quelle vitesse.
À quelle vitesse,
voilà. Tout donne du feu dans ce cas-là.
Non, l'eau non.
Hein? L'eau non, c'est un liquide.
Le verre, ça donne pas. Hein? Le plastique, ça donne pas.
Ah, le bois, il donne.
C'est sûr.
Hein? C'est sûr?
C'est sûr.
Même le métal.
Ah, le métal, c'est sûr. Bon, mais le silex, c'est beaucoup plus rapide. Alors, c'est ce qu'on explique en Chassidut, on est de la même façon. Il y a trois catégories de neshamot. T'as des gens que leur neshama est allumé. Ils sont en chaleur. Ils sont déjà allumés. Ils démarrent, elle est déjà allumée. Lui, tu vois sa flamme. T'as des gens, tu crois qu'ils sont éteints, parce que t'as l'impression qu'ils sont éteints, mais en fait, quand tu commences à souffler un peu, ils redémarrent. T'as des gens que même ça, il n'y a rien. Ça, tu leur parles, tu dis, mais reviens, fais tes chouvas, c'est important. T'as l'impression que c'est mort. Et des fois, il y a un frottement. Des fois, il y a un frottement, et là, le frottement, tout d'un coup, t'as une énergie qui sort, tu sais pas d'où elle sort. Après, vous savez comment c'est le feu. Le feu, une fois que t'as eu une flamme, une fois que t'as eu une étincelle, avec une étincelle, tu peux allumer la planète. C'est la chouva. Avec une goutte d'eau, tu peux pas nourrir, tu peux pas nous abreuver la planète. Mais avec une étincelle de feu, tu peux allumer toute la planète. Tant qu'on l'éteint pas. Alors, c'est la même chose. Qu'un juif, parfois, ce qu'il faut pour l'allumer, même si tu as l'impression qu'il est froid, et qu'il est mort, et qu'il n'y a rien, et qu'on a on souffle, il n'y a rien. Tu dis ça, il est mort. Celui-là. Tu n'as pas idée à quel point ce juif, il suffit d'une étincelle. Et si tu réussis à arriver une étincelle, ça peut le faire décoller. C'est un message très important, ça. Parce que des fois, nous-mêmes, ou d'autres personnes, on connaît des gens qui sont loin, on se dit, celui-là, Moucha, il est mort. Il est mort, il est perdu, c'est fini. Ça ne lui parle pas. Ça ne lui parle pas. Des fois, il y a des gens que même qui poursent, même pas s'ils font. Tu dis, celui-là, il est mort, c'est fini.
Tant que tu n'as pas reçu le faire-part.
On te dit.
Tant que tu n'as pas reçu le faire-part, il n'est pas
écoute,
mort.
Écoute, on va parler voiture. Qu'est-ce qu'il faut pour démarrer une voiture?
D'accord.
Et qu'est-ce qu'il fait le démarreur? Qu'est-ce qu'il envoie le démarreur? Une étincelle. Il faut une étincelle. Avec une étincelle, tu peux démarrer une voiture. Une étincelle.
Mais non, la question, c'est où est-ce qu'on va trouver?
Ah, c'est pas chacun. On sait pas ça, qui va le déclencher. Non. C'est comme le silex, tu essayes comme si, c'est comme ça, il n'y a rien. Et à un moment, tac, t'en as une. Et c'est démarre. Donc c'est ça ce qu'on a dit. Alors on a dit comme ça, on a dit que, et je termine dans le chapitre 19, les obstacles lui faisant face fondent alors comme de la cire. Ça on a expliqué dans le chapitre 19 aussi, que parfois on a l'impression que le Tzahara, il nous met un mur devant Dieu. Mais en fait, dès qu'on allume le feu, automatiquement le mur qui est devant Hachem, il fond comme de la cire. Imaginez qu'on a devant nous un mur en cire. C'est-à-dire, toi, tu crois jamais surmonter ce Sahara, il est très dur, il est costaud, jamais je réussirai. On dit d'abord, t'es attiré vers Hachem, t'as l'amour d'Hachem au fond de toi. En plus, t'es attiré vers lui. Ah, tu ne le sais pas encore, peut-être. Il faut souffler un peu, ou il faut secouer un petit peu, mais tu l'as. Tu l'as sans toi. Et sache qu'une fois que le feu est allumé, les plus gros obstacles, tu vas voir, ils fondent comme de la cire. Kehimes donag, comme dit le prophète. C'est-à-dire, comme de la cire, elle fond, de la même façon, c'est de la même façon, ça va fondre. Donc, ça, c'est déjà un élément qui est rassurant. C'est 18 à 19. Maintenant, on va passer à 4 chapitres qui étaient relativement compliqués, donc je ne vais pas trop m'arrêter dessus, mais on va quand même s'arrêter rapidement. Les chapitres 20 à 24. D'abord, est-ce qu'il y a des questions? Je ne suis pas là pour parler seul, hein, donc s'il y a des questions, allez-y.
Par rapport à l'eau.
Oui.
Quand tu gèles, quand l'eau elle gèle.
Ah, c'est de la glace.
Tu gèles de la glace.
Donc, ça d'accord.
Et quand tu mets ta main, c'est, ça brûle.
Oui.
D'accord, ça, de l'eau glacée, ça peut nous brûler aussi. Comme une teinte.
Ok, alors.
De ce côté-là.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Bah, tout à l'heure, t'as dit.
Un froid qui produit du chaud.
Oui.
Excusez-moi.
Le froid produit du chaud. Je sais. J'ai pas fait assez d'études pour t'expliquer le comment. Des molécules, comment ça se passe techniquement.
Mais
ça,
avez...
ça peut t'expliquer, forcément.
Tout s'explique.
J'ai toujours entendu ça, moi.
L'eau n'est pas forcément l'ennemi.
Non. Elle ne l'est pas.
Non, mais tu veux qu'on en arrive à. On en arrive
au contraire, à... regarde, l'évaporation, ça génère quoi? De l'eau?
De l'eau. Ouais. De la chaleur.
Les éclairs, la foudre.
Bah voilà.
L'eau et le feu, c'est toujours, toujours en symbiose.
C'est incroyable d'ailleurs. Donc, je crois que de l'aspect de la création,
Et pour revenir à nos moutons, pour revenir à notre histoire, ce qu'il veut te dire, le Morazaken, ce qu'il veut t'expliquer, c'est un mot. Comment la Torah et les mitzvot, c'est quelque chose d'accessible. C'est pas quelque chose d'inaccessible. C'est très important comme message là, vous savez. Quand tu vas voir quelqu'un qui se lance dans une affaire, tu dis écoute, tu vas morfler, tu vas galérer, mais je te garantis une chose, c'est que tu vas réussir.
À la longue, tu vas gagner.
Imaginez maintenant que je te propose une affaire dans laquelle c'est très très dur, je te dis tu vas galérer, je te garantis que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, tu seras millionnaire. Mais tu vas galérer. Je fonce. Donc là, c'est le message. Hachem, il te dit, je t'ai jamais dit que la Torah c'est facile. On ne peut pas faire l'amalgame entre facile et accessible.
Le chemin va être long.
Voilà, le chemin va être long. C'est accessible, mais ce n'est pas forcément facile. Ok. Bon, maintenant on va rentrer dans la pensée juive. Là, M. Benita, il va être servi. Chapitre 20 à 24, tout le monde sera servi. On va s'arrêter sur les deux premiers commandements. Comment en vérité, tout le judaïsme est résumé dans les deux premiers commandements. Quels sont les deux premiers commandements ? Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Et tu n'auras point d'autre Dieu à part moi. On va expliquer maintenant comment dans ces deux commandements, on a le résumé de tout le judaïsme.
Un grand jaloux.
Et encore une fois, le but, pourquoi on nous parle de tout ça, c'est pour nous expliquer à quel point tout ça, la Torah et les mitzvot sont accessibles. D'accord ? Mais au début, on va commencer un peu par la théorie.
C'est quoi la fin ?
Hein ?
C'est ça que j'arrive pas à comprendre.
Pourquoi la quoi ?
Pourquoi la fin ?
Quelle fin ? J'ai pas compris.
C'est-à-dire, tu n'auras point d'autre Dieu à part moi, comme si on avait d'autres.
À l'époque, il y avait des gens,
il y avait des idoles.
Non, mais on dit que la Torah, elle est valable.
Tu auras ta réponse aujourd'hui. Là-dessus, tu auras ta réponse. Je suis l'Éternel, ton Dieu. 20, chapitre 20. L'unité de Dieu reste inchangée, même après la création du monde, qui n'enleva rien à qui est infini. Exemple, notre potentiel infini de parole. Voilà le premier fondement de notre foi. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque Hachem dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu » ? Ça veut dire que je reste toujours ton Dieu et que mon unité reste inchangée même après la création du monde. On aurait pu dire « Avant la création du monde, Dieu était seul. Maintenant que Dieu a créé le monde, il n'est plus seul. Il y a, à part Dieu, il y a le monde, il y a l'univers, il y a des milliards d'êtres humains, voilà, etc. » On dit non. Le fondement de notre foi « Anochi Hachem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu » comme disent les commentaires. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu reste infini de la même façon qu'il était avant la création, après la création. Son unité absolue n'a pas été touchée. Alors comment on peut comprendre ça? Ça on peut pas comprendre. Parce que moi je peux pas comprendre ça. Moi dans ma tête, il y a toujours l'être humain est conçu d'une façon qu'il y a toujours un avant et un après. Donc comme par exemple un être humain, par exemple ici j'ai une bouteille de Coca devant moi. Il y a un avant, il y a un après. Avant, ça fait un quart d'heure, elle était pleine. Après, j'ai bu, elle est vide. Elle se vide. Donc il y a un avant, il y a un après. Chez Akadosh Baruch Hu, il peut te servir autant qu'il veut, être toujours plein. Son unité est intouchée. Comment on peut expliquer ça? Le comprendre de façon absolue, on ne peut pas. Parce que si on le comprenait, on serait nous-mêmes Dieu. Mais on peut quand même Dieu a quand même créé un exemple dans notre corps qui nous permet de nous imaginer ça. Quel exemple on a donné? La parole. Est-ce qu'il y a une limite sur le nombre de paroles qu'une personne peut débiter sur cette terre? Non. Attendez. La force de la parole... Voilà. La capacité de parler est illimitée.
Entendu.
Ah, voilà.
Ah, oui.
La capacité de parler est illimitée. Par contre, qu'est-ce qui va la limiter? Ce qui va la limiter, c'est le fait qu'il n'y a plus de corps pour parler. Mais tant qu'il y a un corps pour parler, si ce corps dure 120 ans, il parlera 120 ans. Oui. S'il va durer comme Mathusalem 969 ans, d'accord? Ben, il parlera 69 ans. C'est-à-dire que la capacité de parler est une capacité qui est infinie. Ça, c'est un exemple, bonsoir. C'est un exemple que Dieu a créé dans notre nature. Pour nous permettre de comprendre comment un élément peut donner à l'infini sans que tu lui enlèves quoi que ce soit. Alors, de la même façon, lorsque Akadosh Baruch Hu dit le premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu, il y a des gens qui lisent ce commandement et disent, bon, je suis l'Éternel ton Dieu. Où est le scoop? Où est le commandement? Je suis l'Éternel ton Dieu, c'est pas un commandement, c'est une information. Merci. Ok. Alors, c'est bon, je l'ai appris. Maintenant, je le sais, c'est emmagasiné dans ma tête. Depuis que je suis petit, je sais qu'il y a un Dieu et que Hachem, c'est mon Dieu. Où est le commandement? Où est le challenge? Où est l'effort? Où est la mitzvah? Qu'est-ce que je dois faire? Où est l'injonction?
On va pas chercher ailleurs.
C'est quoi la... Non! Ça, c'est le deuxième, ça. Ah. C'est quoi le premier, déjà? C'est-à-dire quoi, je suis l'Éternel, ton Dieu? C'est pas stam de dire, je suis l'Éternel, ton Dieu, c'est-à-dire tu as un Dieu. Non! Je suis l'Éternel, ton Dieu, ça veut dire qu'à Kadosh, pour te dire, mon unité reste inchangée, quoi qu'il arrive. Alors, dans ce cas-là, la question qu'on se pose, on arrive au chapitre 21. Si tu me dis que quoi qu'il arrive, Akadosh Baruch Hu nous a créé, mais quand même, son unité reste inchangée et qu'il reste unique, qu'il reste seul au monde. Alors, dans ce cas-là, pourquoi on a l'impression qu'on est indépendant? D'où elle vient cette sensation d'indépendance que l'homme a? Est-ce que je suis indépendant ou je suis pas indépendant? Est-ce que j'existe ou je n'existe pas? Alors, réponse, chapitre 21. L'illusion d'indépendance. Pour nous donner le libre arbitre, Dieu se cache et se contracte en donnant l'illusion qu'il n'est pas là. Mais en vérité, il est toujours aussi présent. Ça, c'est le Khidush. Là, je vous fais un résumé en 4-5 lignes, mais c'est des choses qu'on avait expliquées longuement. C'est que Dieu nous donne une illusion d'indépendance. Une illusion. C'est-à-dire, il te fait croire que tu es indépendant. Il te fait croire que c'est toi qui gères tout. Mais en vérité, c'est lui qui gère tout. Pourquoi il le fait? Parce que s'il ne l'avait pas fait, il n'y aurait plus de libre-arbitre. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, il te fait croire que c'est toi qui gères. D'accord? C'est-à-dire, imaginez par exemple quelqu'un qui vous prend par la main, qui vous fait marcher, mais qu'il arrive à faire en sorte que vous ne vous rendez pas compte qu'il vous prend par la main. Donc lui, il croit qu'il marche tout seul. Il dit, oui, je suis attiré par une force, il y a une force qui m'attire, etc. Et c'est moi cette force, etc. Il ne voit pas quelqu'un qui le tire. Bon, bien un autre exemple. Imaginez quelqu'un qui a l'habitude depuis qu'il est petit à prendre une carte, on lui donne une carte et tous les jours, il va au distributeur et il y a toujours 1000 euros qui sort. C'est pas mal, d'accord? Et ce bonhomme, quand on lui dit, bah alors, d'où vient cet argent? Il dit, ah non, non, c'est le distributeur qui m'a donné cet argent. J'ai besoin de personne, j'ai pas besoin de Dieu, et j'ai pas besoin de banquier, j'ai pas besoin de mon père, pas besoin de ma mère, j'ai besoin de personne. C'est le distributeur, j'ai un code et un distributeur qui me donne de l'argent. Qu'est-ce qu'on lui répondrait à ce monsieur? On lui dit, mais raham, derrière ce distributeur, il y a quelqu'un qui a mis de l'argent. Le distributeur, c'est bien beau le distributeur, mais qui est derrière ce distributeur? De la même façon. Dans le distributeur, encore, c'est facile, parce qu'il suffit de rentrer à la banque, dire, bon, il n'y a plus d'argent, ils vont dire, ah, bah, c'est normal, il n'a pas mis, d'accord? Mais quand c'est avec Hachem, sur toute la ligne, il ne te montre pas. C'est lui qui donne et qui fait. Mais il ne te montre pas que c'est lui qui fait. Il te laisse croire que c'est toi qui fais. C'est-à-dire que si tu veux croire que c'est toi qui as fait, tu peux croire. On s'est arrêté longuement sur ce chapitre, d'accord? C'est très dur. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de preuve absolue dans le monde que Dieu existe. Et on doit déjà s'estimer heureux qu'il n'y a pas de preuve qu'il n'existe pas. Ouais. Imaginez s'il y avait une preuve que Dieu n'existe pas. Ouais. On aurait tant embêté là. D'accord. Alors, mais voilà, la preuve absolue, que Dieu existe, il n'y en a pas. Il y a des suppositions, il y a des allusions, il y a tout ce qu'on veut, mais une preuve absolue, mathématique, cartésienne, sans faille, que Dieu n'existe pas, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que s'il y en avait, si Dieu était limpide, si Dieu était visible aux yeux de tous, si on voyait devant nous la présence divine, on n'aurait pas eu le libre arbitre. Jamais on n'aurait pu voter. Or, Hachem, il te dit, je me cache, mais ça ne veut pas dire que je suis pas là. C'est pas que je me suis retiré. Dieu ne se retire jamais. Je suis l'éternel, ton Dieu. Je suis là. Mon unité est inchangée. Tu fais partie de moi. Seulement, pourquoi tu crois que tu es indépendant? C'est moi qui t'ai créé ce sentiment de pseudo-indépendance pour ne pas afin que tu aies
un faux libre arbitre qui me donne.
Non, c'est un vrai libre arbitre.
Oui, il me dit, tiens, libre arbitre, et d'un autre côté, il me surveille.
Bien sûr. Je comprends. Seulement, le problème, c'est pas le problème, c'est que toi, quand tu fais ce que tu fais, tu es en mesure de te convaincre qu'il n'y a personne qui te surveille. Ça, c'est le libre arbitre. C'est-à-dire, si tu es religieux, tu dis, bon, j'ai quelqu'un qui me surveille. Mais il n'y a aucune preuve que quelqu'un te surveille. Vous avez une preuve que Dieu vous surveille? Moi, j'en ai pas.
Ah ben voilà, vous êtes en train de le dire là.
Mais ça, je parle d'un postulat que la Torah est vraie.
Ben voilà.
D'accord. Non, oubliez ce texte. Je vous parle. Est-ce que Monsieur Charles Benita a une preuve mathématique que Dieu le surveille? Non, il n'en a pas. Il peut pas en avoir. Il n'y a pas. Et c'est volontaire qu'il n'y en a pas. Parce que s'il y en avait, il n'aurait pas eu le libre arbitre. Le Sahara, il n'aurait pas fait le poids. On voit devant nous. Le policier, il est devant toi. Qu'est-ce que fait le malin?
Alors, d'un autre côté, si on dit que Dieu...
Donc là, si vous voulez, le policier, il est là. Dieu, c'est pas qu'un policier, c'est aussi un père gentil, mais le policier, il est là. Tu sais qu'il est là, mais tu vois pas qu'il est là. Et tu dois te convaincre qu'il est là, mais tu le vois pas. Donc celui qui veut croire qu'il est pas là, il peut se convaincre qu'il est pas là.
Actuellement, ce qui se passe, il y a des caméras.
Les caméras, voilà. Mais là, tu sais qu'il y a rien derrière.
Oui, c'est...
Parce que, même si tu crois que tu crois que tu sais pas, tu ressens un PV de Rennes et tu comprends tout de suite. D'accord? Voilà. Bon.
Mais quand Dieu était visible, Dieu se manifestait notamment la sortie d'Égypte et plein d'autres événements où les gens étaient là, ils ont vu des choses
incroyables. Oui,
mais c'est pas secret. C'est pas la preuve.
C'est vrai qu'au moment où Dieu s'est dévoilé, on sentait, mais rien ne prouve que dans le quotidien, il est toujours là. C'est ce qui explique, par exemple, une personne qui peut aller chez un tzaddik, peut vivre des grands moments, etc., dans lesquels il fait des grandes décisions. Et après, dès qu'il revient dans le quotidien, il oublie tout.
T'as raison, toi.
Pourquoi? Parce que quand tu es dans le feu, là, effectivement, tu dis, je sens Dieu. Mais quand tu reviens dans le quotidien, il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien.
C'est pas qu'il n'y a plus rien. Alors, c'est le khidouche. Il y a toujours.
Je sais pas,
mais il ne se voit plus.
Imaginez un instant, on va faire un effort d'imagination. Imaginez-vous un instant, vous sortez d'Égypte, vous êtes dans un désert. Vous voyez ce que vous voyez. Vous avez une mer qui s'ouvre. Vous avez des nuées ardentes. Vous
la
avez
mer qui tombe.
Bah, vous avez que la nature est complètement. Il n'y a plus de nature.
Mais pourquoi. J'ai une question à vous poser.
Ils ont continué.
Pourquoi vous allez chercher jusqu'au désert? Vous respirez là maintenant?
Comment?
Vous respirez? Est-ce que vous respirez maintenant?
Oui, heureusement.
Vous me voyez?
Grâce
à Dieu. Vous parlez?
Tu entends?
Est-ce que vous avez réfléchi au miracle? À mon avis, juste les trois choses que je viens de vous dire, c'est des miracles encore plus grands que la manne.
Oui, mais ils sont tellement.
Je t'ai très bien compris. Seulement, on s'habitue à tout. Au début, c'est impressionnant. Après, on dit, ouais, bon, bah, c'est un phénomène.
C'est banal après.
C'est banal. De la même façon que le ciel il envoie de l'eau, ben il est, ici le ciel il envoie à manger.
Va voir ceux qui ont pris la tempête là, Michael.
Bien sûr. Voilà.
Le vrai croyant, il a peur.
Il a plus rien.
Donc ça c'est Rabotaï, ça c'est le. C'est bon.
Le vrai croyant, il a la trouille lui.
Non, au contraire.
Celui qui croit vraiment que Dieu existe, là il a la peur de sa vie là. Il ne faut surtout pas qu'il se mette à penser que Dieu n'existe pas, parce que il est complètement perdu. Très paumé, il ne pourrait rien faire de cette loi.
Bon, alors Rabotaï, on continue. Donc voilà le chapitre 21. Ça, c'était le premier commandement. Je suis l'Éternel, ton Dieu.
Pourquoi il ne dit pas « Je suis l'Éternel, votre Dieu »
Non, ton Dieu, c'est personnel. Bon, écoutez, on va essayer de se cantonner à ce qui est écrit ici, parce que sinon, on peut développer. Mais là, le but, c'est un résumé. Parce que je vous rappelle que la semaine prochaine, on terminera le Tanya, si tu veux. Enfin, la première partie du Tanya, parce qu'il y en a 5. Et qu'après, la semaine d'après, on commencera une nouvelle partie. Donc là, le but, c'est de résumer. Après, on reviendra si Dieu veut. Donc, premier commandement, je suis l'Éternel, ton Dieu. L'unité de Dieu reste inchangée. Chapitre 22. Deuxième commandement, tu n'auras point d'autre Dieu. Question de Michael. Mais tu n'auras point d'autre Dieu, ça veut dire quoi? Où est le commandement ici? Je reprends l'autre Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, tu peux comprendre ce commandement au sens littéral? Pardon, David. Comment tu peux comprendre?
Oui.
Comment tu peux comprendre ce commandement au sens littéral? Au sens littéral, ce commandement veut dire très simple. Tu dis, bon, ben, il y en a un, tu n'auras pas deux, tu n'en auras pas un autre. Mais évidemment, est-ce que c'est un challenge pour vous? Est-ce que vous êtes réveillé ce matin en vous posant la question, tiens, est-ce que j'ai un Dieu ou j'en ai un autre? Est-ce que c'est une question que vous posez? Est-ce que c'est un sujet chez vous? Moi, chez moi, c'est pas un sujet, c'est un sujet chez vous?
Oui,
c'est pas un sujet.
Parce que tout n'est pas comme ça.
Ouais, je comprends, mais bon. C'est-à-dire, à la limite, il y a des gens qui croient en Dieu, des gens qui n'y croient pas. Mais après, celui qui croit, de croire qu'il n'y en a pas un autre, ça me parle pas, ça. Alors quoi, c'est quoi le commandement? Maintenant, on a compris. C'est quoi ne pas avoir d'autre Dieu? Un Dieu, c'est pas forcément un Bouddha. Un Marchemam. Un Dieu, c'est quoi un Dieu? Un Dieu, ça peut être une autre existence. C'est-à-dire que, quand on dit que tu n'auras point d'autre Dieu, ça veut dire que, on te dit que même si, malgré la pseudo-indépendance du monde, la vraie volonté de Dieu est le bien et ce qui est annulé à lui. L'arrogance est comparée à l'idolâtrie. C'est ça, ne pas avoir d'autre Dieu. Ne pas avoir d'autre Dieu, ça veut pas dire de pas servir Bouddha. Ne pas avoir d'autre Dieu, ça veut dire que tu dois savoir qu'à part Dieu, il n'y a rien. Et donc, automatiquement, tout ce qui ne suit pas Dieu doit être banni de ta vie. Exemple. On a parlé de la colère et de l'arrogance. D'où vient l'arrogance? L'arrogance, c'est une personne qui a oublié qu'il y a un Dieu qui est là. C'est chose simple. D'où vient la colère? Je m'énerve. Ah, ça m'énerve ce qui s'est passé. Comment ça t'énerve? Qui a envoyé ce qui vient de se passer? C'est Hachem. Tu n'auras point d'autre Dieu à part moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moi, et à part ça, il y a le Dieu de tes affaires, il y a le Dieu de ta famille, il y a le Dieu de ta voiture, il y a le Dieu de tes impôts, il y a 10 000 dieux.
Pourquoi là, il ne me donne pas le libre arbitre?
Il te donne le libre arbitre, bien sûr qu'il le donne. Mais il te dit, tu n'auras pas le libre arbitre, tu n'auras pas d'autre Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si je te dis que tu es indépendant, mais ne fais pas l'erreur de croire qu'il y a des choses qui échappent à Dieu. Il n'y a rien qui échappe à Dieu et il n'y a rien qui doit échapper à Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu à part Dieu. Tu n'auras point d'autre volonté à part Dieu. Tout ce que tu dois faire doit être annulé à Kadosh Baruch Hu. Chapitre 23. Notre centre d'intérêt principal. La seule façon de s'attacher à Dieu est par la Torah et les mitzvot. Très important ça aussi. Ne pas avoir d'autre Dieu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire, moi pour m'attacher à Dieu, j'ai pas envie de passer par la Torah et les mitzvot. Moi pour m'attacher à Dieu, j'ai pas envie de mettre une boîte de phylactères sur mes bras. Moi, pour m'attacher à Dieu, Dieu, je le sens dans mon cœur. Et les gens comme ça, tu dis, moi, ouais. Dieu, je le sens dans mon cœur.
La plupart.
Qui se répond à ça? Tu n'auras point d'autre Dieu à part moi. Ça veut dire quoi? Deux choses, ça veut dire. 22 et 23. 22, ça veut dire tu n'auras point d'autre Dieu à part moi. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui m'échappe. Et 23, ça veut dire aussi que tu dois suivre les règles que je t'ai données pour t'attacher à moi. Et que toi, comment tu crois t'attacher à moi? Par tes propres façons, ça ne marche pas. Parce que moi, je t'ai donné un outil. C'est comme, imaginez, tu prends une voiture. On te dit, à droite, c'est quelle pédale? À droite? À droite, quelle pédale? Accélérateur. Et gaucher, quoi? À gauche, c'est quoi?
Le frein.
L'embrayage, le frein. Très bien. Ok, l'embrayage, le frein. Il y en a un qui va dire, pourquoi vous me dites que pour accélérer, il faut appuyer à droite? Moi, je préfère appuyer à gauche. Pourquoi vous me dites que pour faire marche avant, il faut passer à la première? Moi, je préfère le R de la marche arrière, il me plaît. Qu'est-ce qu'on lui répond? On lui répond, on lui dit, il y a un mode d'emploi dans la voiture.
On peut changer.
C'est quoi le mode d'emploi? Mode d'emploi, il te dit, tu veux avancer, il faut appuyer là. Tu veux reculer, il faut appuyer là. Seulement, quand tu prends une voiture, la vérité, c'est que même celui qui veut faire le malin, il voit tout de suite que s'il appuie sur la mauvaise pédale, ça n'avancera pas. Et s'il ne passe pas à la bonne vitesse, ça passera pas non plus. Mais le problème, c'est qu'à maintenant, là, on est dans un mode d'emploi pour te, imaginez qu'on est dans une capsule fermée comme ça, capsule fermée. On te dit, appuie à droite, appuie pas à gauche. Mais tu vois rien ce qui se passe autour. Tout est fermé. Tu sens rien. Aucune sensation. On dit, attention, appuie à droite, appuie pas à gauche. Après, tu vois, la pédale de gauche, elle a l'air bien, tu vois. Moi, je vais essayer un peu. Il se passe rien. Ouais, c'est vrai, il se passe rien. Et tu te rappelles, tu dis, mais ils m'ont dit que c'est interdit, surtout ne le fais pas. Et tu continues. C'est la même chose. À Kadosh Baruch Hu te dit, c'est pas toi qui décides comment tu te connectes à moi. Parce que toi, tu vois rien. Il faut suivre ma Torah et mes mitzvot qui, eux, vont te dire comment tu te connectes à moi. Et c'est pas une dictature. Au contraire, c'est un recette d'Hachem. C'est une bonté de Dieu que Dieu nous a donné le mode d'emploi, comment nous connecter. On est né dans une capsule de pseudo-indépendance. On voit rien du tout. Donc, on est content qu'Hachem nous dit, voilà, vous appuierez là, vous appuierez pas là. On est content. Donc, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Le problème qui se passe, chapitre 24, c'est que, faute et séparation de Dieu, nos fautes commises avec le libre-arbitre, puisque évidemment, comme on a dit M. Benita, si un libre-arbitre, c'est-à-dire que forcément, on a le choix entre faire des mitzvot et entre, malheureusement, faire d'averot, faire des fautes. Alors, nos fautes commises avec le libre-arbitre sont plus graves que le mal faisant sa mission. Ça, c'est un chapitre très dur, ça aussi. Tu dis, Akadosh Baruch Hu, il a créé le mal. Il a créé l'Itzarara, il a créé Satan, il a créé l'ange de la mort. Mais tout cela, lorsque Mashiach arrivera, ils ne seront pas punis.
Non.
Pourquoi? Ils ont fait leur travail. Eux, ils n'avaient pas de libre-arbitre. Satan n'a pas le libre-arbitre de ne plus être Satan. C'est Satan. C'est écrit. C'est Satan. L'ange de la mort n'a pas le choix, le libre-arbitre, d'être l'ange de la vie. D'accord? Le Yetzer Hara, le penchant du mal, n'a pas le choix de devenir le penchant du bien. Il n'a pas le libre-arbitre. Il est ce qu'il est. Pourquoi moi, quand je fais une avéra, même une avéra qui m'a l'air infime, c'est plus grave, je suis plus grave que le mal en personne? Parce que moi, j'ai le libre-arbitre. Je suis la seule personne, je suis la seule entité, je suis le seul être sur cette terre qui peut dire oui et qui peut dire non.
Bon, j'ai une excuse aussi. Hein.
D'accord. Et donc c'est pour ça qu'aucune faute n'est légère.
On a une excuse quand même.
Pourquoi?
Une grosse excuse. Hein.
Des excuses, on en a toujours.
Non, mais une vraie excuse de la création.
Pseudo-indépendance.
Non, c'est pas pseudo, on voit rien. On ne sait pas.
Non.
Puis, c'est pas ça. Il nous a envoyé, Mister Satan. On peut rien faire.
Mais d'un autre côté.
Il nous sollicite, il nous truc, il nous
machin. Bien sûr qu'il y a des excuses. Mais d'un autre côté, on peut pas enlever le fait.
C'est ça qu'il
nous
a créé.
J'entends ce que tu dis. Mais d'un autre côté, on peut pas enlever le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné le libre-arbitre. Et quand on donne le choix à quelqu'un, alors automatiquement, le résultat est beaucoup plus grave pour lui. Parce que si on lui donne pas le choix, on dit bon, il avait pas le choix. De toute façon, il a fait ce qu'il devait faire. Il a fait sa mission. Aucune faute n'est légère. D'où vient la faute? La faute vient à cause de la folie du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, pour te faire fauter, il te rend fou. Comment il te rend fou? Il te dit, écoute, c'est pas grave, tu as fait cette faute, c'est pas grave, t'inquiète pas, tu restes juif, tu restes religieux, t'inquiète pas, ça va, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. C'est la folie du Yetzer Hara. Tout ça, c'était pour nous expliquer ça. Mais en vérité, il faut se dire que le challenge d'un juif, le travail d'un juif sur toute sa vie, c'est quoi? C'est de trouver Dieu dans toute sa vie, dans ses affaires, dans sa famille, dans sa voiture, dans ses impôts, dans toutes ses affaires, de retrouver Akadosh Baruch Hu. D'accord? Maintenant qu'on a expliqué ça, on va passer au chapitre 25. Et demande est-ce qu'il y a des questions?
Moi, je dis qu'il y a encore une preuve qui est magnifique tous les matins quand on se lève.
Une preuve de quoi?
Que Dieu est là.
Il n'y a pas de preuve.
Non, mais.
Non, attendez.
Demain matin à 8h10, il y aura le lever du soleil.
C'est pas une preuve, ça.
Quand tu regardes,
c'est pas une preuve qu'il y a un Dieu.
Après demain, ce sera pareil.
C'est une preuve que le soleil existe.
Mais c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a créé.
D'où vous savez? Ah, mais c'est marqué, c'est pas une preuve. C'est qui vous dit que le texte est vrai?
Non, mais ça veut dire qu'avant moi, il y en avait d'autres. Le soleil est toujours au même endroit.
Et alors?
Il est aux zénith à midi.
Alors on va servir le soleil. On va servir Dieu soleil, alors.
On sait que c'est une création de Dieu.
D'où vous savez?
Comme il dit,
qui vous l'a dit?
Non, mais Dieu, on dit qu'il le voit pas. Alors,
mais qui vous l'a dit? Qui vous l'a dit?
Bah, mes anciens.
D'où ils savaient, eux?
Bah, ils ont pris.
Ils ont pris de qui?
Bah, de Abraham, Israël.
D'où vous savez que c'est pas un baratin? D'où vous savez que c'est pas un baratin tout ça?
C'est inventé.
C'est pas une preuve ça. Pas une preuve. Non, c'est pas mon but de vous enlever la Emouna. Au contraire, hein, je veux pas. Michel, vous savez quoi? J'arrête la discussion, j'ai pas envie de mettre des doutes dans la tête.
Non, moi, j'ai aucun doute là-dessus. On va se revenir en arrière.
Non, mais vous inquiétez pas, je vous rassure, je suis croyant, j'ai pas changé de casquette.
Michel. Mais dans l'absolu, il a raison.
Michel.
Dans l'absolu, il n'y a aucune preuve.
Michel.
Aucune preuve mathématique. Non, ce que vous dites, ce que Rabbi Akiva il dit. Rabbi Akiva il dit.
Tu vas pas plus loin.
Rabbi Akiva il dit quand il y a un tableau qui est tellement beau, il y a bien un artiste qui l'a créé. Mais c'est pas une preuve ça.
Comment?
C'est une supposition.
Tes parents.
Dans l'absolu.
Mais oui ou non? Regarde bien ton père, regarde ta mère. Il y avait des gènes. Il y a un ressort.
Il y a des gens à 50 ans, ils apprennent que leur père, c'est pas leur père.
Non, mais la plupart, c'est pas leur père.
Non, mais là, on part un million de kilomètres. Là. Non, attends, reste là. Attends, tu pars trop loin. Là. Non,
Michel, vous savez ce qu'on dit en mathématiques? Mais attendez, vous savez ce qu'on dit en mathématiques? Pour qu'une preuve soit acceptable, elle doit être reproductible.
C'est vrai.
Voilà. Si elle n'est pas reproductible, c'est pas une preuve.
À part Dieu.
D'accord, voilà. C'est-à-dire que moi, si je veux vous prouver quelque chose, je dois être capable de le faire. Sinon, c'est des théories. Alors, d'où je sais que la Torah est vraie? Parce que j'ai l'Emouna qu'elle est vraie. Mais j'ai pas de preuves logiques. J'ai des suppositions qui partent d'un postulat que ce qui est écrit ici, c'est vrai.
Moi, en tout cas, une chose que j'ai fondée aujourd'hui, jusqu'à quelqu'un, je dis ce que j'ai entendu, puisque Dieu l'a créé le monde avec 10 paroles.
Oui.
Et bien, si je parle avec n'importe qui, je dis, toi et moi, on va construire un pont. J'ai dit qu'une phrase. Est-ce que c'est possible aujourd'hui ou pas de construire un pont?
Oui, mais d'où vous savez que Dieu a créé le monde avec 10 paroles? Qui vous l'a dit?
Toujours pareil. Alors sinon, on arrête tout.
Ah bah oui, on arrête tout.
Avec une parole, comme je viens de dire.
Qui vous a dit?
Non, mais aujourd'hui, je suis capable de construire un pont. Directement, non, mais je prends un ingénieur, il attaque, boum, le pont est construit. Un train, un avion, tout ça.
Je suis pas là, Chazéchal, pour remettre en cause la Torah. Je suis là en train de dire que. Je suis là en train de dire que celui qui n'accepte pas le postulat que la Torah est vraie, il n'a pas de preuve.
Aujourd'hui, on est capable de tout faire.
Mais il n'a pas de preuve non plus comme quoi il est vrai.
Ni l'existence de Dieu, ni l'amour.
Moi, je pense que. Moi, personnellement, je pense que la seule preuve qu'on a de l'être, c'est que nous, il y a de l'être en nous. Donc, il nous a transmis quelque chose.
Bon. Alors, Rabotaille, allez, on y va, faut qu'on accélère.
On va pas heurter ta sensibilité.
C'est l'être que nous sommes.
Mon cher ami.
Et Michel,
allez, on va te garder.
Amis du soir, on avance.
Donc alors, on a transmis de l'être.
Chapitre 25, accessible. Donc, on a expliqué que chaque juif a un amour caché vers Dieu. On a expliqué que chaque juif est attiré vers Dieu. On a expliqué le challenge de chaque juif de pas se faire avoir par le Yetzer Hara, de se détacher d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la teneur des deux premiers commandements. Je suis l'éternel ton Dieu, tu ne réponds le produit à part moi. Maintenant, 25. Puisque la faute est une folie, il est plus facile de se retenir que de donner sa vie. Ça veut dire, le Yetzer Hara, il te dit, il est en train de t'entrelouper. Qu'est-ce que tu lui réponds? Rabotai, il faut se concentrer, s'il vous plaît. Là, on a un résumé de cours entier de plusieurs heures.
C'est bien.
Donc, comment il t'attrape le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il te dit, t'inquiète pas, la faute, elle est pas grave. Mais moi, je lui réponds autrement, Yetzer Hara. Je lui dis, mais attends, tu t'imagines que tu étais prêt à donner ta vie pour Dieu? Maintenant, tu m'as pas donné ta vie. On te demande de te retenir une minute de faire quelque chose. C'est beaucoup plus simple. Et c'est là qu'on a expliqué dans le chapitre 25 l'importance du labeur dans la Torah et les mitzvot. Pourquoi Akadosh Baruch Hu veut qu'on se fatigue? Parce que Akadosh Baruch Hu, il apprécie beaucoup le labeur quand on se fatigue. Chaque petit effort constant compte. Parce que des fois, on se dit, attends, laisse tomber, c'est mort, on réussira jamais. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu apprécie chaque petit effort. Mais même si c'est un effort, j'ai fait un effort qui a été suivi de 10 fautes, Hachem dit, les 10 fautes, on réglera le compte, mais il y a eu un effort qui a été fait ici. Ça, on a du mal à voir ça, vous savez, quand il mesure ton gosse, il te ramène un carnet, il te ramène un bulletin. Tu vois. Bon, t'as eu un 20 et t'as eu 5-0. T'as du mal à le voir, le 20.
Un 20 en musique et...
Alors tu dis, bon, le 20, c'est bien, mais ta. Vas-y, mais papa, j'ai eu 20 là. Hachem n'est pas comme ça. Hachem, il dit, ah, t'as eu 20? Viens, on va parler du 20. Bravo, mon fils, quoi, la cavote. Après, on discute des zéros. Parce que chaque petit effort compte, à condition qu'il soit constant.
Logique,
constant. Et d'ailleurs, on le voit dans le chapitre 25, il dit, il suffit de voir la Amida qu'on va faire tout à l'heure. Trois fois par jour, on demande à Hachem, slachlanou, pardonne-nous. Vous connaissez beaucoup de gens à qui vous demandez pardon trois fois par jour? Ça veut dire que, pourquoi je demande pardon trois fois par jour? Parce que, entre le pardon de ce matin et ce soir, il y a eu des choses. Imagine quelqu'un qui t'a blessé une fois, il dit, bon, je t'en prie, Mendy, excuse-moi. Bon, allez, je t'excuse. Il revient me voir 4 heures plus tard. Il dit, Mendy, vraiment, je refaute encore, je t'en prie, excuse-moi. Il dit, bon, je te donne une deuxième chance. Il revient me voir 1 heure plus tard, Arvid, tu vois. Il dit, bon, écoute, je m'en veux pas, mais j'ai refauté encore. Il dit, bon, pardonne. Après, tous les jours, il revient. Tous les jours, 3 fois par jour. Avant, tu lui dis, écoute-moi bien, baba. Laisse-moi tranquille, d'accord. Fais ce que tu as à faire. Quand tu seras sérieux, tu reviens me voir. Mais Hachem, il répond pas ça. Hachem, il dit, ah, tu t'excuses de tout ton cœur. Je dis, ah, Hachem, je te promets de tout mon cœur. Bon, ok, je t'excuse. T'es un nouvel homme maintenant. On recommence. Tu reviens demain. Tu Hachem, je te promets, je suis un nouvel homme. Bon, alors, t'es un nouvel homme, on recommence. 3 fois par jour. Ça veut dire que c'est un chapitre très rassurant, chapitre 25. Et pour te dire, sache que la Torah et les mises sont accessibles, c'est jouable, c'est faisable, ça dépend de nous, et chaque petit effort compte. Il ne faut jamais négliger les petits efforts. Ça, c'est un piège du Yetzara. Qu'est-ce qu'il fait, Yetzara ? Il s'est dit, t'es un bidon, laisse tomber. T'es un bon à rien, t'as rien à faire. Voilà, Kippour, c'est à combien de Kippour ? Allez, il y a combien de Kippour ? Même pas un mois. Qu'est-ce qui reste, ton Kippour ? Qu'est-ce qui reste, ton Kippour ? Qu'est-ce qui reste ? 2 semaines de Simchat Torah, qu'est-ce qui reste, ton Simchat Torah ? Qu'est-ce qui reste ? T'as fait quoi ? T'es un bon à rien. T'es un nul. T'as un vaurien, tu vois rien du tout. Qu'est-ce que tu lui réponds à ça? Tu dis non. Tu dis, j'ai fait ce que j'ai fait. Même une mitzvah que j'ai fait, que j'ai rajouté. Même 5 minutes que j'ai rajouté. Même une fois que je me suis retenu de dire ce que je ne devais pas dire. Même un regard que je me suis retenu de ne pas regarder ce que j'ai pas le droit de regarder. Même ça, c'est bon. Alors, j'ai pas dit qu'on se contente. Il faut pas se contenter. Il faut beaucoup, beaucoup. Il faut viser beaucoup. Mais il faut savoir aussi apprécier les petits efforts accessibles. D'accord? Maintenant, on va tourner la page. C'est écrit un peu plus petit.
Finalement, quand il a renvoyé. Pardon, oui. Adam Arichon du jardin d'Éden, il lui a dit tu gagneras le pain à la sueur de ton front. Donc, il lui a demandé de faire un effort, il va faire tout le temps l'effort. Donc, finalement, il a récompensé en lui demandant de faire un effort tout le temps.
Évidemment.
C'est une forme de récompense.
Mais ce béni, c'est un autre thème, ça. Évidemment que Adam devait fauter, il n'y a pas de question dessus. C'est évident. S'il n'avait pas fauté, il n'aurait pas eu toute la Torah.
On ne sait même pas si le Hatzadat il a vraiment été là ou pas. Hein.
On l'a pas inventé. On ne sait même pas si Dieu existe. Toi, tu n'existes pas.
Oui, non, mais enfin.
D'accord, on va bien. Mais ce Benita, on le sait parce que c'est écrit. Et c'est tout. Après, il faut bien croire à un moment. Alors. Ah ben c'est pas mal, après 120 ans, vous arriverez en haut, tu me diras alors, Charles.
Ah ouais, avec qui je vais discuter?
Tu dis, écoute, qui tu es, toi, je te connais pas, toi. Qui me dit que tu existes? C'est un bon débouté.
Mais peut-être qu'il va l'apprécier.
C'est très difficile de ne pas croire en la Torah, tout ça, parce que ça nous touche tellement.
Ah, Srazak, c'est
notre ADN.
C'est ce qu'on a dit, c'est donc, 18, c'est ça. Notre ADN. Mais ça, c'est un cadeau d'Hachem. Si, on l'a dit. L'amour caché.
Exactement.
Sachez que ce que vous dites, c'est un cadeau qu'Hachem nous a donné. C'est un cadeau que ça nous touche avant qu'on comprenne.
Tout ce qu'on fait.
Parce que Abraham, pour que ça le touche, d'abord il a compris. D'abord il a compris, après ça l'a touché. Nous, on a la chance que ça nous touche avant qu'on comprenne. C'est un grand cadeau, ça. C'est le plus beau cadeau qu'Hachem nous a donné.
C'est ça, quoi.
Qu'on a déjà acheté le produit avant de comprendre pourquoi il est pour nous.
On a embarqué.
C'est énorme. Bon.
Bah, c'est ce qu'il nous a demandé de faire dès le départ, hein.
Bien sûr. Non,
c'est bon, Benishma. Bah,
il nous a pas demandé.
Il a même pas demandé.
Ouais,
à mon avis. Il nous a imposé un truc, mais aujourd'hui, quand tu réfléchis, ce qu'il nous a imposé maintenant. Bon. On vit avec tous les jours 24/24.
Alors maintenant, on va passer à la page, on va tourner la page, s'il vous plaît. D'accord? On va tourner la page. 26-31. Et le thème, c'est combattre dépression et négativité. Donc, nous avons 2 colonnes. Première colonne, c'est chapitre 26 à 28, qui parle de l'importance d'être joyeux en toutes circonstances. D'accord? Donc, on expliquera des choses qui pourront nous rendre déprimés et expliquer comment on est joyeux en toutes circonstances. Et ensuite, du chapitre 29 au chapitre 30, on parlera du coma émotionnel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe lorsque il n'y a plus rien qui m'intéresse? Quelles sont les méthodes que la Torah me donne pour essayer de combattre ça? Donc, ça, c'est des choses qui sont un peu plus concrètes. Et là, vous savez qu'il y a même des gens qui commencent à étudier le Tanya directement par le chapitre 26. Parce que c'est vrai que le chapitre 26, on parle directement de nous. Avant, on parle de l'âme divine, l'âme animale, les combats, etc. et tout. Mais bon, là, si tu veux, on parle des problèmes. Là, on parle de la vie et de tous les jours. OK. Alors, joyeux en toutes circonstances. Donc là, si vous voulez, c'est pas découpé en chapitres, c'est plutôt découpé en notions. Tout d'abord, on a expliqué un premier point, c'est que la tristesse rend vulnérable.
Ouais.
Là, c'est la base. C'est-à-dire que tant qu'une personne est joyeuse, il est intouchable, il est invincible. Dès qu'il est triste, il est vulnérable. C'est comme dans un ring de boxe. Qui va gagner? C'est pas le plus fort.
Il croit.
Celui qui va gagner, c'est celui qui est le plus confiant. Celui qui est plus confiant, qui est sûr qu'il va gagner. Celui qui est triste, celui qui est déprimé, même s'il paie, même s'il a beaucoup de muscles dans les bras, il va perdre. La tristesse rend une personne vulnérable. On avait donné souvent cet exemple aussi que lorsque vous avez dans les grandes boîtes, lorsqu'ils veulent virer un employé, mais que l'employé coûte trop cher à virer. On le met au placard. C'est quoi la mise au placard? On prend quelqu'un, on le met dans un bureau, on lui dit maintenant ton travail, c'est de rien faire. Il devrait être heureux. Il vient tous les matins. Tu sais quoi, même si on dit même si tu veux, tu viens pas si tu veux. Vas-y, va aux îles Caraïbes.
On
ne calcule plus. Tu n'existes plus, on te paye, pas de problème, fais ce que tu veux. Tu n'existes pas, tu ne m'intéresses pas. Mais c'est le rêve, ça. Moi, la vérité, j'aurais kiffé ça. J'amène ma Gemara, j'amène mon truc, tu t'éclates. Tu t'amènes le truc, tu dis allez-y, paye-moi, continue à payer. D'accord ? Mais la majorité des gens ne réagissent pas comme ça. La majorité des gens, quand ils sont mis au placard, comment ils réagissent ?
Ils deviennent malades.
Je ne leur rends même pas un mois, ils sont déjà chez le psy. Arrêt maladie, arrêt truc, etc. À la fin, incapacité de travail.
Hop, on voit.
De lui-même, il dit je dois partir. Alors, c'est des méthodes rudes, des méthodes méchantes et des méthodes pas cachères. Mais l'idée qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est que quand une personne est triste, il est vulnérable. Exactement. Quand une personne est triste, il est vulnérable. Alors, pourtant, d'un autre côté, parfois dans la vie, il faut être triste. Il faut être triste de mauvaise route, par exemple. Alors, comment jongler entre les deux? Un juif, il doit être triste, il doit regretter sa vérote. Si tu dis que la tristesse rend vulnérable, il faut toujours Bessimra. Oh, je veux bien Bessimra, mais on ne va pas être des imbéciles heureux. Il faut essayer de savoir être triste quand il faut être triste. Alors, il a expliqué, il a dit, la tristesse doit être programmée. Si elle vient d'elle-même, c'est négatif. C'est ce qu'on avait expliqué. C'est-à-dire que si, par exemple, maintenant, je suis mercredi après-midi à 14h24, il ne s'est rien passé, c'est pas la veille de Kippour, c'est pas la veille de Rosh Chodesh et Walou, et tout d'un coup, je vous dis, je repense maintenant à la Vera que j'ai fait, ça fait deux jours, c'était vraiment grave ce que j'aurais pas dû faire. On te dit, c'est un stratagème du Yetzarara pour te rendre déprimé. Pourquoi il fait ça? Parce que dans un cadre, il va te proposer une Vera. Et tu diras oui. Pourquoi tu diras oui? Parce que tu diras de toutes les façons au point où j'en suis, vas-y, je plonge. Non, le Yetzarara, comme il est intelligent, il n'a pas besoin directement te dire, Mandy, viens, j'ai une Vera pour toi. Non, fais pas comme ça. D'abord, il va t'envoyer un petit sentiment de culpabilité pour te montrer que t'es un bon à rien. Pour que tu te sentes rien du tout. Une fois que t'es triste, t'es vulnérable. Par contre, à quel moment il faut la tristesse? Si j'ai prévu, j'ai dit par exemple, jeudi soir, je vais réfléchir à ce que j'ai fait dans ma semaine. Et quand on fait un bilan, il faut être prêt à entendre les bons chiffres et les mauvais chiffres. Donc, je suis prêt à entendre. Là, c'est plus une tristesse négative. Mais si c'est une tristesse qui te vient comme ça par hasard, en plein milieu de la journée, pas que t'as un coup de tristesse qui te prend. Tu la jettes dans la mer. Tu lui dis, dégage, je veux pas de toi ici. Je suis pas triste, moi je suis heureux. Si c'est un moment qui était prévu pour ça, veille de Kippour, veille de Rosh Chodesh, jeudi soir, etc. Un moment, là ça va. Maintenant, la grande question c'est comment réagir lorsqu'une personne est triste. Si maintenant, concrètement, il y a une tristesse qui m'arrive, comment je dois réagir à ça? Alors là, on a trois cas de figure. D'accord? Premier cas de figure, c'est une personne qui est triste d'une épreuve familiale. Dieu préserve. D'accord? Dieu préserve, une preuve familiale, etc. D'accord? Alors, comment dans la tristesse, alors, c'est difficile de dire qu'on repousse la tristesse, tu vas repousser quoi? Le problème est là. Comment dans la tristesse, on arrive à ne pas sombrer dans la déprime? Ça, on explique aussi beaucoup dans le Tania la différence entre la tristesse et la déprime, l'amertume et la déprime. On peut être triste de quelque chose, c'est possible. Mais dès qu'on sombre dans la déprime, c'est la catastrophe. Les Hassidim expliquent, ils disent, c'est quoi la différence entre la tristesse et la déprime, l'amertume et la déprime? C'est que lorsque tu as quelque chose qui te chagrine, qui te rend triste et qui te rend amer, alors ça doit te donner une propulsion, une envie de réagir, une envie de faire quelque chose. Par contre, si l'envie que tu as, c'est d'aller te mettre sous une couverture, de rien faire, ça nous arrive à tous. Tu as dit, bon, maintenant j'ai envie de voir personne, j'éteins le téléphone, je connais plus personne, tu parles à personne, je vais aller dormir, laissez-moi tranquille. Ça c'est déjà une mini déprime. Il ne faut pas aller voir un psy pour ça, je n'ai pas dit ça. Mais ça veut dire que ça, la Torah te dit, ça, quand tu fais ça, ce n'est pas bon, c'est-à-dire que tu as lâché prise. Tant que tu te bats, ça marche. Dès que tu arrêtes de te battre, c'est la catastrophe.
Tu as cru tant que la tristesse est une émotion.
Une émotion positive. C'est une émotion positive, une émotion qui me pousse à avancer.
Tant que c'est ton être, cette tristesse, tu es tranquille. Mais si tu l'as extériorisée sur autre chose, là, c'est la dépression. Là, tu tombes malade, tu as le psy. Première chance de faire, troisième.
Très vrai. Alors, on va juste continuer. Donc on va prendre les cas de figure. Une personne qui est triste. Pourquoi est-il triste? On peut imaginer qu'il est triste parce qu'il a une épreuve familiale, comme par exemple.
Elle a perdu un parent.
Perdu un proche, une maladie, du préserve, etc. Alors comment on se rassure entre guillemets dans tout ça, tout en étant triste? On doit se rappeler que dans l'épreuve se trouve un attachement à Dieu et une joie extraordinaire. Ashra Gever Ashati Asernuya. Oui. On doit se rappeler que même dans l'épreuve, Akadosh Baruch Hu est là, il est dans l'épreuve. Et donc, il faut se rappeler que Dieu ne t'a jamais oublié. D'accord? Exactement comme Joseph, Razak. Ensuite, on a un deuxième cas de figure.
Non, mais il a raison. Dans la Torah, il y a des écrits sur Joseph où il traite ses émotions-là.
Tu sais pourquoi? Il explique là-bas dans le Tanya.
Sa tristesse. Il dit, pourquoi il est rendu par ses frères et tout son programme.
Il y a ses émotions. Tu sais pourquoi Dieu préserve, que Dieu nous préserve tout ça? Tu sais pourquoi une épreuve familiale, une épreuve de la vie peut amener une personne à une joie profonde?
Des épreuves.
Parce qu'en vérité, c'est là qu'on se rend compte du vrai attachement qu'on a avec Hachem. Tant qu'il n'y a pas de problème, tu dis, bon, je suis attaché avec Hachem, mais ça ne me coûte rien. Il n'y a pas de challenge ici. Mais quand Dieu préserve, il y a un problème, et que dans le problème, on trouve un attachement avec Hachem, là, c'est ce qui nous permet de voir la foi profonde qu'on a en nous. On a tous ces exemples de gens qu'on connaît, qui ont perdu des proches, surtout très très jeunes, etc. Et tu les vois, toi tu vas les rendre visite pendant les Shivas pour essayer de les consoler, et tu te retrouves toi-même, Mechouzak, tu te retrouves toi-même renforcé. Tu dis, mais d'où ils ont la force, ces gens-là? Pour être là, te renforcer, te donner des forces, t'expliquer, on sent une émouna. D'où ça vient ça? Parce qu'en fait, ils arrivent à trouver en eux les forces d'un attachement profond avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une joie profonde, ça. Trouver l'attachement profond qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le premier cas de figure, mais encore une fois, on le souhaite à tout le monde qui reste uniquement en théorie. Maintenant, on a une deuxième catégorie. C'est quoi la deuxième catégorie? C'est une personne qui n'est pas triste d'une épreuve familiale. Il est triste de ses fautes. Il en a marre de fauter. Ça vous arrive des fois d'avoir marre de fauter? J'en ai marre de fauter, ça me casse les pieds. Je suis triste. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous êtes avec moi ou pas? Ne me regardez pas, regardez le texte. Alors, ouais. Je suis triste dans ses fautes, triste de ses fautes. C'est hein? Quoi? C'est quoi, Cohen? Je vois tout.
Il en a marre de dormir.
Alors, triste de ses fautes. C'est pas mal ça? C'est beau? Il est triste de ses fautes. Je te dis non. Le Yetzer Hara cherche à le faire fauter par son désespoir. Toi, tu crois que t'es triste de tes fautes, mais en vérité, le Yetzer Hara, comme on vient de dire tout à l'heure, il cherche à te faire tomber. Et en plus, pourquoi tu dois pas être triste de tes fautes? Si c'est le moment pour faire tchouva, fais tchouva. Mais pourquoi tu dois pas être triste de tes fautes? Parce que tu dois être persuadé que sans doute, Dieu t'a pardonné les fautes. Slach lanu avinu kichatalu, il m'a pardonné. Donc faut pas être déprimé. Un juif doit pas être déprimé. Maintenant, Des fois, t'es un juif qui est triste des mauvaises pensées. Il n'a pas fait de faute, il n'a pas d'épreuve familiale, mais il en peut plus que chaque fois qu'il vient une amida, chaque fois qu'il vient un cours de Torah, il y a des pensées bizarres qui viennent dans la tête. Et là, ça lui casse les pieds. Il dit, pourquoi ça m'arrive ces pensées? Si ça m'arrive, c'est que je suis un type tordu. Qu'est-ce qu'on lui répond? On lui répond avec une phrase. Est-ce que tu te prends pour un tzaddik? Pourquoi t'es triste? Parce que tu te prends pour un tzaddik. T'as une mauvaise image de toi. Tu crois que tu es ce que tu n'es pas. C'est pour ça que tu dis, ah, moi je suis un tzaddik, comment ça peut m'arriver? Mais si tu te connais réellement, tu sais qui tu es, tu comprends que t'es un être humain. C'est normal. Faut te battre. Faut jamais s'arrêter. Alors, concrètement, comment il faut faire maintenant quand t'as des pensées qui arrivent? D'accord? Donc là, il y a deux cas de figure. Si c'est pendant tes affaires, t'es en plein milieu de tes affaires, t'es en train de faire une pizza. Ah, David? D'accord?
Oui. Exactement ou sans suite.
T'es en train de faire une pizza. Bon! Et tout d'un coup, t'as une pensée qui te vient et tu dis, ah, la vérité, j'ai pas assuré quand j'ai fait ça.
Ah oui.
T'es pas en train de faire ta vie là. T'es pas en train de faire tes mitzvot. On a expliqué les trois cas de figure. Triste d'une épreuve familiale, ça vient d'Hachem. Triste de ses fautes, il faut la repousser. Triste de mauvaise pensée, il faut se pas prendre pour un tzaddik. D'accord. Enfin, concrètement, je fais quoi? Si la mauvaise pensée arrive quand je suis dans mes affaires, alors il faut se dire qu'au contraire, je fais une mitzvah en le repoussant. Pourquoi? Je suis dans mes affaires. Je suis en train de penser à une avéra que j'ai fait. Ou plus que ça. Je vous dis plus que ça en vérité. Une personne, il est en train de faire ses affaires. Il est dans ses affaires. Et tout d'un coup, il y a une belle femme qui passe. D'accord? Et il est triste que, il a eu une certaine attirance de vouloir regarder, qu'il se retenir. Il dit, comment ça peut m'arriver? Alors, qu'est-ce qu'il doit se dire? Il doit se dire que, il doit être heureux d'accomplir une mitzvah. Quelle mitzvah? C'est une mitzvah. On va lire tout à l'heure dans le schéma. C'est une mitzvah qu'on accomplit des centaines de fois en été. Il fait encore chaud maintenant, mais bon, c'est plus l'été. La mitzvah de ne pas se détourner après nos yeux. C'est une mitzvah! Donc on lui dit, Mechmar, reste en train d'être triste. À qui tu crois que Dieu lui a parlé? Tu crois que Dieu lui a parlé à des extraterrestres? Dieu, il a parlé à des gens comme nous. Et Hachem, il nous a dit, tu feras l'effort de ne pas. Et quand tu fais l'effort de ne pas, tu accomplis une mitzvah. C'est tout. Tu te dis, oui, mais alors, tu dis, mais pourquoi Hachem, il a fait ça? Alors là, je suis au petit 2. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Pourquoi Hachem, il me met tout le temps en galère? Pourquoi Hachem, il peut pas me faciliter les choses? Et là, on a parlé de Itkafia. Petit 2. Itkafia. C'est quoi Itkafia, hein? Vous allez expliquer la différence entre le plat salé et le plat sucré. Ce qui est sucré est naturellement bon, sans le travailler. Ce qui est salé, il faut le faire revenir. À la base, il est amer. Il faut le faire revenir, etc. Et là, il devient bon. De la même façon, à Kadosh Baruch Hu, il a deux types de plats. Il a un premier plat qui s'appelle Tzadikim. C'est des plats sucrés, ça. Il est bon, le plat. Il n'y a rien à faire. Il est déjà bon de base. Juste, on le met un petit peu, comme ça, on fait de la belle présentation. Mais à Kadosh Baruch Hu, il a aussi des plats salés. C'est nous. Tu prends un légume qui est pas bon, qui est amer, et tu travailles, tu fais revenir, tu prends un oignon comme ça. L'oignon revenu, c'est bon ou pas bon?
Bah, bon,
hein?
Ça, c'est
tout,
bon.
Tous les légumes.
Sucré en plus.
Maintenant, qu'est-ce que vous préférez, le salé ou le sucré?
Les deux sont sucrés. Ah.
Les deux. C'est une question difficile pour un Marocain.
L'oignon, c'est sucré quand tu le fais cuire.
Ah. Qu'est-ce que vous préférez entre le salé et le sucré?
Sucré. Le salé.
Ça dépend des heures.
Ça dépend, c'est pas la même chose. Oui, alors, Kadosh Baruch Hu, il a ses deux plats. Son plat sucré, c'est Tzadikim, son plat salé, c'est nous. Donc on te dit, toi tu dis, mais pourquoi Hachem il fait que c'est tellement difficile? Pourquoi c'est tellement de challenge? On te dit, ne sois pas triste de ça. Sache que tu fais la volonté d'Hachem. Sache que tu as accompli des mitzvot en repoussant tes mauvaises pensées. Sache que tu as accompli des mitzvot en te retenant de ne pas faire une avéra. Et sache que quand Hachem il voit comment il t'a créé, amer, et comment toi progressivement tu prends le plat, tu le fais revenir vers lui, Kadosh Baruch Hu te dit, tu n'as pas idée le plaisir que tu me donnes. Le plaisir que ça me procure. Il faut savoir que, petit 3, notre petite sanctification d'en bas entraîne une bien plus grande en haut. C'est-à-dire que toi, tu te sanctifies un petit peu, Hachem, il te sanctifie beaucoup. Donc c'est un chapitre très rassurant, ça aussi, pour t'expliquer et te dire que faut pas s'imaginer ce que tu n'es pas. Arrête de te prendre pour un tzaddik. Tu n'es pas un tzaddik. Tu sais qui tu n'es pas un tzaddik. D'accord? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit juste que, sache, non, là je parle de la tristesse.
Non mais...
Non.
T'as évité une.
T'as une personne. Non, attendez. T'as une personne qui dit attends. Je comprends pas. Je viens au cours de Tania. Je viens à l'office tous les matins. D'accord. J'essaye d'aller à l'office ce soir. J'essaye d'écouter le cours d'ora par-ci. Écouter le cours d'ora par-là. J'essaye de faire des efforts. J'essaie d'être un type bien. Comment j'ai des pensées comme ça qui me viennent dans la tête? D'où ça vient ça? Je suis un type tordu à ce point. Je suis irrécupérable. Mais je suis quoi? Je suis une zut. Je suis quoi moi? Qu'est-ce qu'il y a dedans là? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc à un moment tu te poses la question. Tu dis. Le Tzahara, tu dis, mais qui suis-je? Ça pourrait amener une tristesse.
Ah oui,
tu
mérites pas d'avoir des pensées comme ça.
Ah oui, tu dis, mais d'où il sort là? D'où ça sort ça? D'où ça sort? Je mérite pas ça. C'est là on lui répond, on lui dit, tu n'es pas tzaddik. Ça ne veut pas dire que ton travail n'a pas réussi, ton travail marche très bien. Ton travail marche très bien. D'accord? Mais, encore une fois, trois points. Tu fais une mitzvah en repoussant la verrotte. Tu donnes le place à l'HM et ta petite sanctification d'en bas a une grande sanctification d'HM.
Le tzaddik, il n'en a pas besoin.
Ah, très bien, le tzaddik. Maintenant, ce qui arrive parfois, hein, des fois, la mauvaise pensée, elle n'arrive pas pendant tes affaires. Des fois, la mauvaise pensée, elle arrive pendant la tefila. Et là, on pourrait tomber dans un piège, pendant le service divin. Quel est le piège? Pendant la mida. Et là, tu es en train de te dire, tu sais ce que je vais faire? Je vais me battre avec la pensée. Je vais m'expliquer que c'est pas bien, qu'elle est pas belle, que c'est pas bon, que c'est pas bien, je vais m'expliquer que c'est pas bien de faire ce que j'ai fait, etc. On te dit ça, c'est un piège dans lequel il faut pas tomber. Pourtant, Béhémeth, c'est écrit dans les livres de Kabbalah. C'est écrit que les tzadikim se battent avec les pensées. Vous savez pourquoi ils le font? Parce que les mauvaises pensées qui tombent dans la tête d'un tzadik, c'est des pensées qui récupèrent des autres. Ouais. Des fois, leurs élèves, etc., ils n'arrivent pas à gérer des pensées, donc ça tombe dans la tête du tzaddik. Et le tzaddik,
il prend sur lui,
et il se bat avec la pensée pour dire non, c'est pas bien, etc., c'est des bêtises. Pour essayer de casser cette idée. Mais celui qui n'est pas tzaddik, lorsqu'il se bat avec une mauvaise pensée, qu'est-ce qui se passe? Il y pense encore plus. Il perd. Qu'est-ce qu'il veut dire? Tu veux dire quoi?
J'ai perdu.
Hein? T'as perdu? Tu vas convaincre quoi? Dans ce qu'il dit ici. Pendant le service divin, ne pas chercher à diriger les pensées vers le bien comme le ferait le tzaddik. Le vaincu trouve les dernières forces. Le yitzhara qui se réveille est une preuve claire que le yitzhara commence à faire les fesses. C'est très important ça aussi. Des fois, tu as une personne qui est en train de faire une superbe amida. Vraiment, elle a mis le paquet. Il se levait à l'heure, il se levait avant l'heure. Il a étudié chassidut, il s'est préparé. il s'est douché, il a tout fait, ma vache. Il s'est préparé matériellement, spirituellement, il arrive prêt, à l'heure, tranquille, etc. Il met cette filine, etc. Il prie mot par mot, ma mâche, il essaye d'être dedans. Et là, tout d'un coup, pah, t'as un truc qui lui tombe dans la tête, c'est pas d'où il sort.
Du lourd.
Ça, là, tu dis, attends, tu dis, est-ce que c'est une preuve que c'est vide à l'intérieur? Admor HaZaken te dit pas du tout. Au contraire. C'est une preuve que ta tefila, elle marche. Et comme elle marche, lui, Tsar, il dit, attends, t'as dû sortir tes cartouches. Moi aussi, je vais les sortir. Mais si le Yetzer Hara te dérange pas pendant ta tefila, ça veut dire que tu ne le déranges pas. Il dit, tu me déranges pas, de toute façon, tu dis des mots, tu tournes des pages. En 20 minutes, t'as tout fini. T'as tourné 50 pages. Mazal Tov, combien de pages t'as lu? Quelle page on est? Mazal Tov, t'as tourné des pages.
Si te dérange. Le
Tsar, il dit, tu sais quoi, tu me déranges même pas, je vais même pas t'embêter. Vas-y, continue, tourne tes pages.
Il est pas loin du tsadik.
D'accord, hein. Au contraire.
Il dit que ça le dérange pas.
Mais non, c'est que le Tsar, tu le touches même pas. Tu le touches même pas, tu l'as même pas embêté. Si il se défend pas, c'est que tu le touches pas.
Il a rien à faire, le
Tsar. Le Tsar, il a rien à faire, il dit, pourquoi tu veux que je me batte? Tu m'as rien fait.
Il n'est pas précis. T'attends.
Si le Yitzhara il t'attaque comme ça en plein milieu de ta mère, en plein milieu de ta fille là.
C'est que t'as été trop loin déjà pour lui.
Exactement. C'est que c'est un bon signe. Attendez, moi aussi je me réveille. Donc c'est ce qu'il dit. C'est la force de Admor HaZaken. Comment il t'explique les gens quand des choses comme ça leur arrivent, ils disent, ah, je suis déprimé, ça marche pas, je suis un bon à rien, ça sert à rien, c'est une catastrophe. On dit, mais remarque, t'as rien compris, c'est le contraire. Si le Yitzhara il t'attaque alors que t'es à ton apogée, ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que le Yitzhara il dit, attends, moi aussi je veux parler. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà ce qu'il faut faire. Essayer de les ignorer, faire comme si qu'elles n'étaient pas venues. Quand tu arrives à quelque chose comme ça, tu ignores! Comment ça va me poser la question? Non, mais je vais réfléchir. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est normal que ça m'arrive? Est-ce que c'est pas normal que ça m'arrive? Tu ignores. Tu fais comme si que c'est pas venu. Tu ignores. Tu zappes. D'accord? Et si ça marche pas, t'arrives pas à zapper. Qu'est-ce que tu fais? Alors dans ce cas-là, il faudra demander la miséricorde à Kadosh Baruch Hu.
L'aide de Dieu.
L'aide de Dieu. Je dirais, écoute Hachem. Là, tu m'as l'aide d'Hachem. Tu écoutes. C'est toi le patron. Tu vois que je fais de mon mieux. Je t'en prie. Donne-moi un coup de main. Et Hachem, il donne des coups de main. Il va te laisser tranquille pendant un mois, deux mois, non, deux ans, trois ans. Après, ça reviendra. Après, tu te rebattras encore. Et après, tu redemanderas. Et après, etc. 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 Mais ce qu'on peut retenir de cette colonne, c'est qu'un juif, il doit jamais être déprimé. Toujours être Bessimra. Et même quand il y a des choses qui pourraient le rendre déprimé, vous avez vu que chaque chose, on a une réponse pour se dire que c'est pas le moment. Tu mets ça de côté, tu ignores, il faut qu'il n'y ait rien qui enlève ta joie. Parce que lorsque tu enlèves la simra, tu as tout enlevé. On peut être très religieux. Tu peux être très religieux. Quelqu'un qui fait toutes les mitzvot sans rater une seule. Mais si tu n'as pas la simra, tu es un zombie.
On doit faire la fête.
J'ai pas dit faire la fête.
Joyeux.
Non, j'ai pas dit faire la fête. Qui a parlé de faire la fête? Être joyeux.
Souriant.
Être joyeux, ça veut pas dire danser. Être joyeux, ça veut pas dire rigoler. D'accord? J'ai pas dit ça. Ça peut être ça aussi, pourquoi pas? Être joyeux. Ça veut dire être joyeux de sentir que je suis sur la bonne route.
Positif.
Comme un enfant.
Être
d'accord? Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je donne souvent cet exemple. Comment vous expliquer ça? Lorsqu'un enfant, il est là en train de sourire, personne pose la question pourquoi il sourit. Lorsque l'enfant il se met à pleurer, on dit ah pourquoi il pleure?
C'est vrai.
D'accord, dit pourquoi il pleure? Maintenant, lorsqu'un adulte y rentre, s'il est mchenef, d'accord, on dit bon c'est normal, il est mchenef, c'est comme tout le monde. Mais s'il rentre avec un grand sourire, il dit ah Makara, pourquoi tu fais un grand sourire? Qu'est-ce qui a changé?
Ça dépend.
En vérité, Hachem il nous a bien créé, il nous a créé avec le sourire. Et nous on est là tout ordre. Hachem il t'a créé. La posture naturelle d'un enfant, c'est quoi la posture naturelle d'un enfant? C'est quoi? C'est le sourire. Il n'y a pas besoin de raison pourquoi je le saurais. Je suis Bessimra, c'est normal. Il me faut une raison pour être déprimé. Mais quand on devient adulte, c'est le contraire, tu vois. Il me faut une raison pour être joyeux. C'est n'importe quoi.
Quand tu es né, tu pleures.
Hein? Tu pleures parce que ça fait mal. Mais d'accord, mais après, tu prends un enfant, il est naturellement joyeux. Pour qu'il pleure, il faut une raison. Nous, c'est le contraire.
On aurait pu rigoler, quoi.
Parce que le Sahara, il nous prend, parce que la vie nous prend. Faut pas tomber dans le piège. Il faut rester Bessimra. Alors voilà ce qu'il nous reste pour la semaine prochaine. La vérité, c'est que au prochain, je vois que ça prend du temps parce que vous avez des questions. Donc, au prochain, hein, c'est un bon signe. Donc, je pense qu'on va le faire encore en deux cours. Sinon, on n'arrivera pas. Sinon, j'ai pas envie de bâcler. Donc, entre la semaine prochaine et la semaine d'après, si Dieu veut. La semaine prochaine, on fera 29 à 40. Et la dernière semaine, si Dieu veut, on fera 41 à 53. Si Dieu veut. Voilà.
Mais il y a le...
qu'il parle de tristesse.
Alors, attendez, je ne vais pas mélanger les feuilles.
Ouais. Un petit mot,
allez-y, allez-y.
Un petit mot, c'est un effet, si tu veux. Et j'avais écouté une conférence un jour sur... Ils appellent ça l'effet Job.
L'effet
Job. avec tout ce qui lui arrive, avec tout ce qui lui est arrivé dans sa vie... Non, il n'a jamais rigolé, mais il était toujours amoureux de Dieu.
Oui,
toute la misère qu'il lui a envoyée, il a... Il...